je me suis aperçu en fait dans le congrès que c'est pas facile à unifier comme thème. Il y a beaucoup de considérations sur le travail extrêmement intéressantes, et alors aussi avec le renouvellement incroyable que le travail apporte dans la vie personnelle, dans la vie d'une famille, comment les fondements et la qualité du travail dépendent aussi de la famille, mais il y avait très peu sur la fête. Alors, il y a le temps pour le travail, il y a le temps pour la fête. Par exemple, une des questions qui est arrivée, c'est « est-ce que dans nos lieux de travail, il n'y a pas aussi des fêtes très belles ?» Par exemple, quand on dit au revoir à quelqu'un qui part à la retraite, par exemple, quand on va fêter une naissance, ou un de nos collègues qu'on connaît déjà depuis 4-5 ans et qui d'un coup se marie. Enfin, à l'intérieur même, ce sont des domaines qui ne sont pas totalement séparés, qui peuvent aussi se rapprocher parfois. Et puis là, il y a un espèce de soupçon aussi par derrière, qui est, dans les sociétés pauvres, c'est vrai que moi j'ai vécu à Madagascar et je peux en être témoin, on a un sens de la fête extraordinaire, on se met à chanter tout de suite, même quand il n'y a pas de moyens, on se met à danser. Est-ce que les sociétés riches et avancées, elles n'ont pas perdu le sens de la fête? Ben non, enfin ben, bien sûr, il y a des désastres qu'on appelle les rave parties dans lesquels l'alcool coule à flot, plus la débauche, plus la drogue, plus ci et plus ça, donc ils sont des points sombres, évidemment, et ténébreux. Enfin, il y a quand même des fêtes extraordinaires dans les familles, pour fêter un grand-père ou une arrière-grand-mère très âgée. Donc, je trouve que ce sens de la fête, on l'a gardé, on le vit, et ça reste comme des moments très forts. Donc là, il y a quelque chose d'assez joyeux dans lequel la famille se structure, trouve ses racines et aussi se renouvelle, vous voyez, comme à l'intérieur du travail. Le travail est profondément structurant. C'est pour ça que je pense que c'était un thème très ambitieux, qui a été approfondi d'un côté et de l'autre, mais peut-être pas assez unifié.
Alors, on n'a pas perdu le sens de la fête, selon vous, en Europe en tout cas. Est-ce qu'on n'a pas perdu, par contre, le sens de la famille ?
Oui, elle est malmenée. Vous voyez, pour une raison fondamentale, c'est que c'est fragile. Vous voyez, on ne peut jamais nier que cet enfant, c'est mon enfant. Même si on l'a renié, ça reste mon fils ou ma fille. Que ce monsieur ou cette dame, même si on a eu des très grandes bagarres, c'est mon papa ou ma maman. Il y en a eu des brouilles familiales, mais ça, c'est quelque chose de incassable et incontestable. Le problème de l'union entre l'homme et la femme, c'est que c'est un choix. Et donc les choix, on dit, ben, je me suis trompé. 10 ans plus tard, je ne pense pas pareil. J'ai changé. C'est mon chemin, etc., etc. Bon, selon les aléas de notre subjectivité. Et à l'intérieur de l'évangile, vous avez une réponse assez fondamentale sur ce sujet à propos du verbe choisir. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Sous-entendu, ce n'est pas vous qui vous êtes choisi. C'est en fait un choix de Dieu sur vous. Bien sûr, vous, vous avez choisi, c'est le plus grand choix de votre vie. Je ne conteste pas que c'est un choix humain, et c'est même le plus grand. Et pourtant, il est petit par rapport au choix que Dieu fait. Et donc, ce qui est grandiose dans le sacrement du mariage, c'est qu'il y a la plénitude du choix de l'homme, et en fait, il est scellé, et il est repris par au-dessus dans ce qui est un choix de Dieu. Et alors là, il sera incassable. Nos choix, nous, sont toujours fragiles. Ou sujet à caution, ou sujet à changement d'avis. Tandis que le choix de Dieu, il est incassable. C'est pour ça que la Bible dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Parce qu'en fait, ça va avoir des conséquences de profonde déstabilisation. Alors, voilà, ça c'est le fait. Et après, vous interrogez les gens. Et finalement, ils sont toujours tous très attachés à leur famille. Et même dans une société où on critique tout le temps la famille, en fait, chacun reste très très attaché à ses proches. L'amour et la souffrance se mélangent souvent, pas uniquement pour des questions de conflit ou de divorce, etc., mais quand il y a une grande souffrance ou une maladie ou un handicap, etc., ça reste comme une grande souffrance. L'histoire de l'amour dans nos vies est mêlée à l'histoire de la souffrance. Je ne vais pas vous faire un discours bleu ciel ou sucre d'orge en disant il y a de l'amour dans les familles, il faut préserver les familles parce que tout est amour. Non, toujours l'histoire et la souffrance se mélangent. Mais que nous y soyons attachés, ça c'est sûr. Et ça c'est une vérité universelle.
Alors en France, et peut-être plus largement en Europe, le discours, la conception de l'Église sur la famille est souvent considérée comme rétrograde, moraliste. Est-ce que ça l'est vraiment ?
Oui, vous savez, il y a une phrase très belle du cardinal de Courtrai, mon prédécesseur. Un jour, lui, vous êtes conservateur, il y a assurément, oui, je suis conservateur de l'avenir. C'est-à-dire que j'ai le souci de l'avenir et je veux que les choses ne soient pas abîmées pour l'avenir. Mais pour prendre un discours plus récent, il n'y a pas très longtemps, comme vous savez, il y a eu les élections présidentielles en France. Et là, il y avait M. Mélenchon, qui est donc le candidat du front de gauche, et qui assume tout le passé communiste, mais de la gauche, quoi. Et alors, on lui dit, qu'est-ce que vous avez à dire aux chrétiens? Puisque c'est un journal qui avait interrogé les 10 candidats, en leur demandant quelle est leur parole à donner aux chrétiens. Et lui, il avait dit, aux chrétiens, je leur dirais ceci, c'est que le bolchevisme, eh ben, ça a duré 70 ans, quoi. Et aujourd'hui, c'est mort. Donc, il y a eu la révolution de 1918, et en 89, le mur de Berlin est tombé, et tout a effondré derrière. Tandis que l'Église est l'Église depuis 2000 ans. En fait, ce monsieur, il a tout dit. C'est-à-dire que ce qui est à la mode, ce qui est le clapotis des vagues aujourd'hui, où il y a fort à craindre que dans 30 et dans 50 ans, ce soit tout culbuté en sens inverse. Alors, l'Église sera toujours considérée comme ringarde. Elle a l'habitude. Des fois, ça a été très violent. Hein. On nous a mis en prison, on nous a coupé la tête. D'autres fois, on nous a dit quoi dans les rues. D'autres fois, on s'est moqué de nous. Bon, enfin, des choses mineures, graves, parfois dramatiques. Bon, c'est pas... En fait, malheureusement, on a l'habitude, quoi, ce genre de choses. Mais c'est pas tellement qu'on a envie de faire des grandes manifs ou convaincre des quantités de gens. C'est qu'en fait, il y a là une vérité qui nous est donnée, dont nous sommes sûrs qu'elle est source de bonheur pour nous, que nous n'avons pas tellement à expliquer, communiquer aux autres, transmettre aux autres comme une vérité dogmatique qu'on souhaiterait imposer, patati patata, parce que déjà on la vit si mal. Ouais. Mais je pense que c'est en la vivant avec cette conviction qu'elle est source de bonheur pour nous et pour les autres, qu'elle fera son chemin. Ouais. C'est plutôt par les faits que par les grands débats idéologiques qu'on arrive à toucher les autres. Donc à l'intérieur de ces grands débats, ben, je sais pas trop s'il faut prendre la parole. Et comment ? Assurément, il faut prendre la parole, bien sûr. Mais quel sera le ton juste ? Le véritable ton juste, c'est pas dans les mots, vous voyez, c'est dans le rayonnement de la charité, quoi.
Une dernière question. Il y a une crise en ce moment au sein d'une famille. C'est la famille pontificale. Est-ce qu'il y a des crises aussi au sein de l'Église ? Est-ce que ça touche les fondements de l'Église ?
Elle est belle, votre question, parce que effectivement, c'est une famille qui l'entoure. Il y a les gens avec lesquels il vit et il travaille. Et quand il y a la trahison à l'intérieur même de ta propre famille, c'est encore plus douloureux qu'un ennemi de l'extérieur qui t'insulte ou quelqu'un avec qui on est en conflit. Voyez. Et donc, ces temps-ci, justement, je pensais à cette souffrance du Saint-Père. Moi, la chose toute simplette que j'ai faite mardi quand j'ai appris ça, c'est que je lui ai écrit une lettre, quoi. En lui disant que la famille de l'Église, elle était très unie à lui et qu'on l'aimait comme un père et que tous les jours on priait pour lui et qu'on imaginait l'épreuve que ça devait représenter, mais qu'on savait qu'il avait dans son baptême et dans sa prière la ressource spirituelle pour faire face et qu'en tout cas, il se sache soutenu par notre affection et notre prière.